Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant dans la grande table des idées du mouvement MeToo au fantasme sur l'éducation sexuelle à l'école qui ont ressurgi à la veille de cette rentrée, de la question du harcèlement à celle du consentement. Comment la sexualité est-elle devenue une question politique? Comment la reconnaissance que nous en avons et cette connaissance plutôt a influencé nos pratiques et nos comportements? Pour comprendre la sexualité aujourd'hui, il faut en saisir les multiples héritages. 50 ans après mai 68, la sexualité entre révolution et régression. On en discute aujourd'hui avec à mes côtés Christophe Caron, rédacteur en chef de Slate.fr, partenaire de cette émission, dont la série Sexe en liberté se poursuit avec un nouvel épisode qui sera mis en ligne vendredi autour de Marc Dorcel, figure du porno qui a contribué à sa démocratisation. Bonjour à vous, Christophe Caron.
Bonjour Olivier.
De Kinsey à Anaïs Nin, de Lucien Neuwirth, au duo de chercheurs Masters et Johnson, portrait dans vos pages numériques de ces pères et mères de la libération sexuelle au XXe siècle, qui nous ramène aux origines du plaisir, au début de la contraception ou encore à la libération de la parole. À nos côtés, notre invitée à tous les deux, Sylvie Steinberg, bonjour.
Bonjour.
Directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de l'histoire des femmes. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif Une histoire des sexualités qui sort ce mois-ci aux presses universitaires de France. Une histoire entre évolution des normes et des mentalités. On ouvre avec vous sur cette démarche que vous avez réalisée, Sylvie Steinberg, bien entourée. Plus qu'un détour par l'histoire, vous avez choisi de réinscrire la sexualité, ce fait social total, tel que vous le qualifiez, dans l'histoire. Qu'est-ce que cet éclairage historique nous apprend de l'évolution de nos comportements ?
Je crois que de revenir très en arrière, puisque nous revenons à l'histoire grecque, hein, à l'Antiquité grecque et romaine, avec une première partie rédigée par Sandra Bouringer, je crois que de revenir très en arrière permet d'avoir un regard un peu, de relativiser parfois la nouveauté de ce que nous vivons. Hein. Nous avons l'habitude, vous êtes un peu entré en matière de cette manière d'ailleurs de penser que nous vivons une période de révolution sexuelle, de libération sexuelle. Ce sont des notions qui méritent évidemment d'être prises très au sérieux et d'être discutées, d'être débattues dans le débat public, mais aussi d'un point de vue historique. Et en même temps, de revenir, mettons, sur une durée de 2500 ans, permet de relativiser un certain nombre de ces nouveautés. Ou au contraire, d'ailleurs, de mettre en exergue ce qui véritablement fait notre modernité, fait la spécificité de ce que nous vivons. Donc ça, je crois que c'est un premier élément qui est très important. Un autre élément qui nous a poussé, disons, à réaliser cette synthèse hein, sur une très longue durée, c'est qu'il nous semble que sur ces questions-là, qui sont des questions dites sociétale ou, comme on disait autrefois, une question de mœurs, il y a, disons, un déficit de mémoire. Hein, c'est-à-dire que, précisément, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles nous avons l'impression de vivre des temps inouïs et totalement innovants, c'est que nous n'avons qu'une mémoire extrêmement courte sur ces questions qui, par définition, sont des questions dont la mémoire est très peu portée dans l'espace public. Pourquoi ? Parce que très longtemps, la sexualité a fait partie plutôt du domaine privé, plutôt du domaine du silence. Les sources sont très difficiles à travailler, elles sont très difficiles à exhumer. Et puis, je dirais que contrairement aux événements politiques, militaires, voire diplomatiques qui ont jalonné notre histoire, ça ne fait pas partie finalement de notre mémoire. Ce qui fait que très souvent, on a l'impression d'être à l'an zéro d'un certain nombre de faits ou de phénomènes. Et le fait de restituer une mémoire ou une histoire plus exactement de très longue durée, je pense, peut servir à mieux comprendre finalement les temps que nous vivons.
Et en quoi, Sylvie Steinberg, la sexualité dans l'histoire est indissociable de la question du genre ?
Alors bon, ça c'est une question bien sûr qui fait partie des nouveautés des approches sur la sexualité, je dirais. Hein. C'est-à-dire que une des articulations du livre aussi, c'est d'essayer de faire comprendre que les approches sur la sexualité, les approches des historiens ou des historiennes, sont des approches multiples, que c'est elles ont été approchées de multiples façons. Alors elles ont été approchées, je dirais, par la génération des historiennes, des historiens des années 70, dans un dialogue avec la question de la procréation, donc avec un dialogue avec la démographie historique. Hein. Qu'est-ce qui pouvait, dans notre culture, dans nos croyances religieuses, etc., expliquer, au fond, les grands temps de notre histoire démographique. Elles ont été approchées d'un point de vue culturel, elles ont été... Bon, la grande nouveauté, je pense, de notre approche, d'une certaine façon, de l'approche des auteurs que nous citons, c'est précisément de faire intervenir la question du genre, donc de faire intervenir la question des rapports hommes-femmes, la question de la domination, la question des rapports de pouvoir, la question bien sûr de l'homosexualité, de la transsexualité, etc.
Christophe Caron, avec l'entomologiste Alfred Kinsey, premier auquel vous consacrez un portrait dans cette série Sexe en liberté, que vous consacrez à ce vaste sujet sur slate.fr, on se rend compte que la sexualité au départ s'étudie certes, mais aussi se dissèque, on cherche à comprendre. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer dans ces études? Est-ce que ça va devenir déjà une discipline sérieuse? Qui va porter cette étude-là et cette parole-là? Et comment cette question va être abordée?
Alors, c'est vrai qu'on a eu moins de mémoire que Sylvie Steinberg quand on a lancé notre série. Nous, on est parti de Kinsey. Alors Kinsey, pour le replacer, c'est un des premiers scientifiques à avoir abordé la sexualité ou l'étude de la sexualité avec une méthode d'observation. Il a interviewé 16 000 hommes et femmes, 8 000 chacun de chaque genre. Il en a tiré deux rapports qui ont été publiés dans les années 40. Il avait une formation d'entomologiste, donc il étudiait les insectes et il a décidé d'étudier la sexualité comme il étudiait les insectes. C'est une approche très scientifique. Il sera suivi 10 ans plus tard par le couple Masters and Johnson qui, eux, iront un peu plus loin. Ils intervieweront moins de monde, mais ils les regarderont dans leurs rapports sexuels. Ils étudieront les rapports sexuels en direct, que ce soit des rapports sexuels seuls, de la masturbation, ou à plusieurs, des coïts. Ils en observeront 10 000 et ils en tireront eux aussi un ouvrage qui marchera plutôt bien. Ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est que si on a au début une approche scientifique, très vite, il y a une volonté de normer et de théoriser la sexualité. Kinsey se lance dans un engagement de réforme sociale. Il se rend compte en fait que la sexualité qu'il observe est très différente de la sexualité telle qu'elle est représentée par la société américaine. Il y a des biographes de Kinsey qui diraient que 85% des jeunes qui ont été observés par Kinsey auraient pu être criminalisés, auraient pu être dans l'illégalité par rapport aux lois de l'époque. Donc il s'engage contre ça, il s'engage contre la norme du mariage qui préside aux États-Unis à l'époque. Et de leur côté, Masters and Johnson repère des dysfonctionnements et tente de les soigner avec une thérapie, ce qui est plutôt une bonne chose dans l'idée, sauf qu'il y aura quelques dérives quand Masters voudra soigner les homosexuels, puisqu'il estimera que les homosexuels sont des gens dysfonctionnels. Et je me demandais, parce que c'est pas les seuls à avoir cette approche normative, on verra dans les années 70 avec Foucault, avec Guérin, avec Le Phare, avec les maoïstes, qui eux ont une approche politique, il y a à chaque fois, on peut pas s'empêcher d'y mettre du culturel, du politique, vous l'avez dit vous-même, de déconstruire.
Voir de la morale.
Voir de la morale dans cette approche de la sexualité. Pourquoi est-ce que les sexualités, ou la sexualité, est une matière qui ne peut pas s'observer scientifiquement sans affect?
Sylvie Steinberg.
Je ne sais pas si elle ne peut pas s'observer sans affect. Disons que l'observation, évidemment, quelle qu'elle soit, de n'importe quel fait qu'on va baptiser de scientifique, se fait toujours avec des valeurs préalables, un protocole préalable, des idées préconçues. Je pense que là, en l'occurrence, pour ce qui est de Kinsey ou de Masters and Johnson, il était quand même question d'essayer de se déprendre hein, quand même de cette morale étouffante et de prendre les choses sous le biais de l'observation. Ce qui s'est passé, c'est plutôt que l'utilisation de leurs travaux me semble-t-il, à créer de nouvelles normes. Du moins, c'est ainsi que le sociologue Michel Bauzon, par exemple, le décrit, c'est-à-dire que on est passé dans une culture avec Master et Johnson, une culture de l'orgasme qui est devenue la norme finalement du comportement sexuel, et de ce point de vue-là. D'une certaine façon, il y a eu la création d'une nouvelle norme de comportement sexuel à partir de là. Alors, pour répondre à votre question de façon plus générale, c'est vrai que les enjeux que recouvre la sexualité sont souvent des enjeux politiques. Mais je dirais quand même que, suivant les époques, ça peut être des enjeux politiques, je dirais, assez marginaux, ou, depuis les années 70, une véritable politisation des questions sexuelles, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là, sans doute que le moment que nous vivons depuis les années 70 est un moment, en effet, spécifique. C'est comme ça que le décrit Christine Barr dans le dernier chapitre de l'ouvrage qui est consacré à cette question, révolution, libération, depuis les années 68 et au-delà.
Alors hier c'était l'Église, et vous l'évoquez, aujourd'hui le législateur, qui sont ceux qui prescrivent la norme, qui sont légitimes à la prescrire. Quel est le champ d'influence du législateur, de l'État, et comment est-ce qu'on distingue ce qui relève du privé, de l'intime, voire de la famille ?
Bon, le législateur, je dirais qu'il est toujours intervenu à un moment ou à un autre dans les questions de sexualité, ne serait-ce qu'à travers la législation matrimoniale, qui date en gros du XIIe siècle pour ce qui est de notre domaine, enfin de notre culture, de notre ère géographique. Donc ça ne me paraît pas être entièrement une nouveauté. Ce qui est plus nouveau précisément, c'est que cette législation, elle s'impose désormais, non pas par un mouvement qui est un mouvement, disons, institutionnel venant par le haut, comme pouvait l'imposer la législation matrimoniale canonique, issue de l'Église, mais elle est discutée, elle est débattue, elle vient aussi des mouvements sociaux, des mouvements de mobilisation autour d'un certain nombre de grandes questions, qu'il s'agisse de la prostitution, qu'il s'agisse de la contraception, qu'il s'agisse de l'homosexualité, de l'état civil des trans, etc. Je veux dire qu'on n'est pas actuellement dans un mouvement législatif certes intense, mais qui prend en compte un débat public qui est nourri. Et c'est là sans doute la nouveauté de ce que nous vivons, c'est-à-dire que ces questions sexuelles sont devenues politiques au sens où elles mobilisent une partie de l'opinion, voire l'opinion publique entièrement.
Et de la nécessité de faire évoluer la loi, on peut se poser cette question là aussi sur le consentement qui a été remis au goût du jour à l'Assemblée comme dans les débats publics. Je vous propose d'écouter l'intervention de Marlène Schiappa dans le cadre de l'Assemblée nationale de l'hémicycle pour instaurer un seuil de présomption de non-consentement.
Nous sommes toutes et tous d'accord, je crois, sur la nécessité de faire évoluer la loi, puisqu'actuellement, le consentement ne fait pas partie de ce qui est défini dans la loi. C'est-à-dire que pour caractériser un viol en justice, il faut qu'il y ait un rapport sexuel sous la surprise, la menace ou la contrainte. C'est cela que nous voulons faire évoluer en instaurant avec la garde des Sceaux un seuil de présomption de non-consentement qui ne puisse pas être discuté pour qu'il soit toujours affirmé en justice qu'un enfant de moins d'un certain âge n'est jamais consentant à un rapport sexuel avec un adulte. Le débat porte sur cet âge. Il s'agit de savoir si l'on fixe ce seuil à 13 ans, comme le demande le Haut Conseil à l'égalité, ou à 15 ans, comme le demandent de nombreux parlementaires qui ont déposé notamment des propositions de loi en ce sens.
Une mesure qui a par ailleurs fait polémique, Christophe Caron.
En fait, cette intervention de Marlène Schiappa s'inscrivait dans une réaction à un fait divers, à une décision de justice qui avait été mal acceptée par l'opinion, et s'inclut aussi dans une réflexion post-MeToo et post-affaire Weinstein. Donc, Marlène Schiappa était très active sur ces questions-là. On l'a vu en juillet aussi faire passer une circulaire pour essayer de remettre les 3 séances d'éducation sexuelle au lycée. Donc, elle a une approche volontariste. Et justement, cette démarche qu'elle a eue de vouloir remettre l'éducation sexuelle dans les écoles en trois séances par an, ce qui est pas énorme, a causé une levée de bouclier assez dingue tout cet été. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu dans les commentaires des journaux en ligne. Juste pour resituer, la volonté de Marlène Schiappa est de consacrer 3 cours, un sur les questions, disons, techniques, biologiques et médicales, un sur les questions de construction de genre et de construction des clichés sur les sexualités pour lutter contre l'homophobie, et un troisième qui surfe un peu sur la vague MeToo, qui est d'enseigner justement les questions de consentement, les questions de harcèlement sexuel, et essayer de mener une réflexion sur la consommation de la pornographie par les jeunes. Ce sont 3 finalement cours qui ne sont assez inoffensifs, ce sont des marqueurs qui sont largement partagés par tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est assez d'accord pour dire que le consentement doit être là, que les hommes et femmes sont égaux, que l'homophobie doit être combattue. Il y a une sorte de consensus dans la société. Pourtant, cette simple volonté-là, ces simples cours-là ont provoqué une peur panique chez beaucoup de parents. On a vu certains s'inquiéter de cours de masturbation.
Ouais. Et qu'est-ce que l'école va mettre dans la tête de nos enfants, en fait?
Et d'ailleurs, à quel moment, qu'est-ce que l'école peut enseigner aux enfants? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas? Pourquoi l'éducation sexuelle à l'école est aussi compliquée à faire passer?
Moi, j'aurais du mal à vous répondre à la place des personnes qui militent activement contre cette éducation sexuelle. Je pense que il y a des enjeux qui sont des enjeux de militantisme conservateur qu'on a vu à l'œuvre précédemment, dans les épisodes précédents, en particulier au moment des ABCD de l'égalité, avec des réseaux qui sont des réseaux actifs, qui sont des réseaux très organisés, des réseaux qui certainement, dont on exagère, je pense, largement l'influence du fait de leur utilisation extrêmement habile d'Internet et des moyens de communication et des réseaux sociaux, etc. Donc, comme vous le dites, je suis pas du tout convaincue que l'opinion publique soit hostile dans son ensemble à ce type de mesures.
Mais au-delà de cet activisme des anti, pourquoi ça ne va pas de soi, ces cours d'éducation sexuelle à l'école? Est-ce que là encore, si on fait ce passage par l'histoire, ça a toujours posé question? Et on en revient peut-être au rapport que vous évoquiez entre l'État et le particulier, l'individu, sur cette question de la sexualité. Dans quelle sphère faut-il la placer ou la déplacer?
Oui, dans quelle sphère faut-il la placer ou la déplacer? Bon, si vous voulez, mais... D'une certaine façon, là, je ne pense pas que l'histoire du silence autour de la sexualité au XVIIe siècle, dans une époque qui est véritablement encadrée par les églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques, nous aide beaucoup
à comprendre
ce qui se joue aujourd'hui. Je veux dire, là, on est dans une temporalité qui est beaucoup plus courte avec, encore une fois, une série d'épisodes qui, depuis une quarantaine d'années, joue et rejoue un peu toujours les mêmes... où joue et rejoue un peu toujours les mêmes acteurs. Soit dit, les acteurs qui s'opposent à l'éducation sexuelle, ils ont un visage aujourd'hui qui est à la fois neuf et pas neuf. Hein, donc,
Christophe Carin.
Juste une dernière question, un dernier mot sur l'enseignement justement des sexualités ou de l'histoire de la sexualité. C'est en général consacré aux profs de biologie, aux enseignants de SVT. Et pourtant, quand on lit votre histoire de sexualité, on se rend compte que, comme le disait tout à l'heure Olivia, c'est une histoire, une construction intellectuelle, une construction morale, une construction sociale. Et est-ce que ces enseignements justement de la sexualité ne devraient pas relever de cours d'histoire ou de cours d'éducation civique? Est-ce que, en faisant un enseignement plus synthétique que ce que vous avez fait à destination des jeunes publics, on pourrait pas justement débiologiser, désexualiser la sexualité pour avoir une approche plutôt historique et une approche culturelle. Est-ce que ça permettrait pas justement d'apaiser ces passions et ces tensions?
Oui, ça c'est tout à fait une voie qui pourrait être envisageable. Et c'est vrai que dans les programmes d'histoire tels qu'ils sont enseignés aujourd'hui, disons que le volet social en général, et je mets la sexualité dans ce volet social, qu'il s'agisse des rapports hommes-femmes, qu'il s'agisse des questions de des questions sexuelles, des questions de genre, etc., est, à mon sens, trop absent. Et c'est vrai que ça permettrait certainement d'avoir un recul supplémentaire par rapport à ces questions, et en même temps de faire prendre conscience aux adolescents que finalement ces questions-là ne relèvent pas uniquement du privé, ne relèvent pas de pratiques personnelles, mais qu'elles sont inscrites dans des normes collectives, qu'elles sont inscrites dans une histoire collective et dans des valeurs collectives aussi que l'on peut ou non partager, mais enfin qui existent.
L'historienne Sylvie Steinberg est notre invitée aujourd'hui, avec à mes côtés Christophe Caron de Slate.fr, la sexualité entre révolution et régression. France Culture, il est 13h17.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
La révolution sexuelle comme prisme, on va ouvrir cette question des moments de rupture qui ont pu se produire aussi dans cette histoire et notamment au XXe siècle. Et je voulais qu'on l'ouvre avec le plaisir féminin. La reconnaissance de ce plaisir est-elle aussi une révolution? Entrons dans un cours d'orgasme aux femmes, extrait du documentaire Révolution sexuelle, documentaire en deux volets de Sylvain Desmilles, diffusé ce soir sur Arte à partir de 20h50 et qui sera disponible 60 jours en replay.
Conquérir son identité, c'est aussi faire la révolution dans son corps. Si l'intimité est politique, le plaisir féminin ne doit plus être un sujet tabou. Techniciens du jouir bien, les sexologues donnent des cours aux femmes pour leur apprendre à avoir un orgasme.
Descends. La sexualité devient un élément très important de l'identité individuelle. Il faut réussir à tout prix sa vie sexuelle. Alors il faut réussir beaucoup de choses, hein. Sa vie professionnelle, sa vie sexuelle, sa vie familiale, sa vie parentale, etc. Mais c'est indispensable de réussir sa vie sexuelle. Et ben, la mesure de la réussite, je suis désolée, c'est l'orgasme, hein.
On est 50 ans après mai 58, c'était la voix de Anne-Marie Son qu'on entendait à l'instant, historienne. Sylvie Steinberg, pourquoi continuer à penser la sexualité en termes de révolution?
Ouais, je crois que c'est ce qui est très important, c'est que nos contemporains ont l'impression de vivre cette révolution. Et donc nous, en tant qu'historiens, ça nous interroge, ça nous fait réfléchir, et on a quelques armes, je dirais, pour essayer de mesurer les choses, de penser avec le public, disons, la réalité de cette révolution, les limites éventuelles de cette révolution. Et puis je pense aussi que un certain nombre de grandes questions qui ont émergé dans les années 70 dans le débat public, que ce soit la question de la prostitution, la question de la violence sexuelle autour des grands procès sur le viol, la question de la pornographie, la question plus récentes de la pédophilie, la question des identités de genre, etc., sont des questions qui marquent notre époque et qui nous donnent à tous l'impression que nous vivons des temps, encore une fois, tout à fait nouveaux. Et c'est à nous aussi de nous emparer de toutes ces questions pour essayer de mesurer cette nouveauté et en même temps d'éclairer les débats qui continuent à être extrêmement vivaces sur toutes ces questions.
La question aussi du plaisir et de la libération des corps. Mais alors, est-ce que c'est vrai que mai 68 est l'année zéro de la révolution sexuelle ?
Certainement pas. Quand on revient en arrière, on voit très bien qu'il y a des moments très importants dans notre histoire où il y a eu des formes de révolution sexuelle. Le XVIIIe siècle a connu une forme de révolution sexuelle et non des moindres, puisque c'est la révolution de la transition démographique. Donc là, le fait de considérer que la limitation des naissances peut être un élément, que simplement d'envisager la limitation des naissances et de dissocier la procréation du plaisir précisément, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. La révolution des années 1880-1930, dont Anne Marisson est précisément la grande spécialiste, où à la fois se pose la question de la place des femmes dans les relations sexuelles, et en particulier la question du refus, là encore, de la maternité ou de leur santé sexuelle, se pose la question de l'homosexualité avec des penseurs ou des cliniciens comme Magnus Hirschfeld, par exemple, en Allemagne, où se pose évidemment la question de faire de la sexualité quelque chose qui relève non plus seulement de la biologie mais de la psyché avec la psychanalyse. Toutes ces révolutions ont eu lieu bien avant 68, et d'ailleurs un certain nombre des textes canoniques de 68 et des années 70, que ce soit Freud bien évidemment, Meyreich, etc., sont des textes qui sont antérieurs, hein, sans parler de la pensée socialiste. On peut pas, les années zéro en histoire, c'est assez rare en fait.
Hein. Et là, est-ce qu'on est au début pour vous d'une nouvelle révolution sexuelle ? Aujourd'hui, en 2018, on a vécu notamment une année de libération de la parole, si on en revient au paradoxe qui avait été mis à jour ou en avant par Michel Foucault sur le 19e, la sexualité, plus on en parle, plus on la juge, et plus elle est ou a été l'objet d'une censure morale. Vous pensez que ce paradoxe-là, dans l'histoire de la sexualité, est toujours valable aujourd'hui ?
Il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par libération de la parole, qui est aussi...
Impensif,
oui, qu'il faudrait, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que tout de même, ce mouvement de libération de la parole, peut-être qu'il nous fait sortir, mais est-ce que c'est durable ou pas, je ne sais pas, précisément du tout juridique qui a un peu marqué ces dernières années, ou les années 80-90, où on a peut-être cru régler un certain nombre de questions, les questions dont j'ai parlé tout à l'heure, par le biais de la législation, encore une fois, que cette législation était portée par des mouvements de sensibilisation, de revendication, etc. Et tout le monde a remarqué que le mouvement MeToo s'inscrivait précisément en marge de tout garde-fou juridique, pour le meilleur et pour le pire, hein, mais que peut-être là, il y a un mouvement précisément, un mouvement de fond, un mouvement égalitaire qui nous fait peut-être entrer dans une nouvelle forme de politisation, je dirais, des questions sexuelles. Mais comme vous le savez, les historiens sont historiens du passé, non pas du futur, donc ce n'est qu'une hypothèse.
Mais ils le sont un peu du présent aussi, Christophe Caron, la sexualité à l'heure d'Internet.
Internet, c'est un pensif aussi de dire ça, mais Internet a bouleversé la sexualité. Je ne sais pas si vous connaissez la règle 34 d'Internet qui
du
dit
tout.
Que si ça existe, il y a du porno à ce sujet-là. C'est une blague, mais ce n'est pas tout à fait faux. Internet a changé le porno et le rapport au sexe, pas en le rendant disponible, mais en explosant la variété de contenus disponibles. C'est-à-dire que avant, quand mes parents ou voulaient consommer du porno, c'était du porno hétérosexuel, du porno gay, du porno SM, et puis on était quand même sur quelque chose de très très basique, en tout cas dans ce qui était vendu. Et Internet a changé la consommation par la navigation, par tag, qui permettait d'avoir des approches très spécifiques. Donc il y a une compartimentation des désirs, des envies, de ce qu'on appelle en anglais les kinks, et on a une balkanisation du désir. On voit que c'est de plus en plus précis. Et dans un même temps, Internet, et là on va sur notre plan, a, vous le disiez tout à l'heure, libéré une sorte de parole, une sorte de positionnement. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont fait entendre des voix qu'on n'entendait pas jusqu'à maintenant, et on a de plus en plus de gens qui ne s'identifient pas au concept d'orientation sexuelle qu'on connaissait jusqu'à maintenant, hétéro, bi, lesbienne, gay, trans. Il y a de plus en plus de genres et de sous-genres, enfin de catégories, de sous-catégories. Mmh. Et on assiste aussi, sur ce plan-là, à une sorte de balkanisation des sexualités. Alors, est-ce que c'est une illusion? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe réellement pour vous? C'est un mouvement qui peut, à votre avis, amener une plus grande tolérance à banaliser justement les différences? Ou est-ce que ça risque justement de dresser des murs entre ces communautés-là?
C'est assez paradoxal parce que, comme vous le dites, il y a à la fois une revendication à la fluidité des comportements et à la fluidité du genre en particulier, une fluidité des catégories, et à la fois, peut-être par le biais de l'Internet et des réseaux sociaux, une tendance à inventer chaque jour des catégories. Donc moi, ça me semble être un paradoxe intéressant, mais qui reste à comprendre finalement. Et donc ça, ce serait une première réponse, cette balkanisation en effet, qui est assez en porte-à-faux en fait avec la fluidité annoncée, disons, par les participants. Donc ça, ce serait une première réponse. L'autre réponse, elle est donnée par les enquêtes de comportement, et en particulier celles qui sont menées par les sociologues, et en particulier Janine Mossus-Lavaux, qui montrent que d'une certaine façon, on ne retrouve pas ni le vocabulaire, ni les pratiques, ces catégories finalement sur le long terme dans les comportements qui sont dit par les enquêtés, disons. Hein. Donc, encore une fois, est-ce que Internet, les réseaux sociaux mettent l'accent de façon extrêmement disproportionnée sur des vrais phénomènes, enfin sur des phénomènes minoritaires, ou est-ce que ce sont des phénomènes qui vont s'amplifier à l'avenir?
Christophe Caron, la dernière question, elle sera pour vous. Du coup, qui écrit, puisqu'on a commencé à l'ouvrir, la sexualité, l'histoire de la sexualité ou son récit aujourd'hui? On évoquait les chercheurs hier. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne se joue pas plutôt au cinéma, à la télé, bref, sur nos écrans, voire sur Internet que vous avez évoqué? Vous ferez cette semaine le portrait de Marc Dorcel. Alors là, on est sur la pornographie. Un peu plus tard, celui de Darren Star. Il y a quand même aujourd'hui sur les écrans quelque chose qui se joue.
Oui, alors Darren Star, quand Clémentine Billet, qui réalise cette série, me l'a proposé, j'étais assez surpris. Je ne comprenais pas pourquoi elle me proposait Darren Star.
C'est qui Darren Star?
C'est le producteur de Sex and the City. Et Sex and the City, finalement, en réfléchissant, même si la série peut être parfois critiquée, a apporté une dimension nouvelle au plaisir féminin et à la sexualité féminine. Elle n'avait jamais été montrée comme ça dans la pop culture américaine avant Sex and the City. Et effectivement, on se voit là que l'industrie du divertissement finalement peut avoir une puissance de libération, ou en tout cas peut aider parfois à les gens à se positionner différemment ou à se voir différemment.
Merci beaucoup. Le sexe en liberté, c'est à retrouver sur slate.fr, une série d'une dizaine de portraits, il y en aura en tout, vous aurez terminé. Merci beaucoup à vous, Christophe Caron. Vous reviendrez très prochainement nous voir pour une nouvelle émission Main dans la main. À lire votre livre, Sylvie Steinberg, un ouvrage que vous avez dirigé, Une histoire des sexualités, avec notamment Christine Barr, que vous avez citée, avec Sandra Böhringer, avec Gabriel Houbre, avec Didier Letts. Merci beaucoup, cet ouvrage vient de paraître au PUF. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé à la réalisation aujourd'hui, Marie Placet avec Jean-Guilain Meige pour notre rencontre avec Chili Gonzalez et Jacques Hubert pour cette Grande Table des idées. À lire aussi sur franceculture.fr le dossier très complet de Chloé Leprince à la rencontre des pionniers français il y a 70 ans de l'éducation sexuelle.